relation de tzaddik entre Noach et entre Abraham. Si je me souviens bien, la première partie du cours, du dernier cours, nous avons vu, à la suite d'une question de Philippe, je crois, une exégèse sur trois versets concernant la différence du fait d'être tzaddik chez Noach et chez Abraham. Vous vous rappelez de cela dans le texte? Je la rappelle pour ne pas perdre de temps. Le tzaddik, le terme de tzaddik qui est dit pour Noach, est relié à l'expression « Et ha-Elohim italech Noach ». Noach se conduisait avec Dieu. C'est-à-dire les évidences morales qui font qu'un homme est tzaddik, je n'ai pas encore défini, acquises, il les admet et il s'y conforme. Je n'ai pas dit « il obéit », ça on verra après. Retenez bien les termes que j'emploie. Hein. Le tzaddik défini selon Noach est en conformité avec les évidences morales déjà acquises. C'est clair ? Et c'est relié au terme qu'emploie la Torah pour dire Dieu par rapport à Noach, c'est le mot de Elohim, Dieu comme créateur. Là, j'ouvre une petite parenthèse à cause des questions de vocabulaire en français. Vous aurez tendance à lire ou à entendre ou à employer l'expression de morale naturelle. Ça vient de la philosophie grecque, surtout d'Aristote. Il y a une grande discussion chez les théologiens chrétiens de la place de la morale naturelle par rapport à la morale révélée. Cette discussion n'entre pas du tout dans les catégories traditionnelles juives. Évitez d'employer l'expression morale naturelle lorsque vous parlez de la morale du tzaddik des Bnei Noach. Il y a une tentation schématique de schématiser et de voir cela comme ça. Provisoirement en tout cas, morale naturelle, on ne comprend pas ce que c'est. Parce que si je fais le minimum commun de définition des philosophies de la morale naturelle chez les philosophes, ça voudrait dire à la limite qu'il faut imiter la nature dans la recherche des critères de la moralité pour l'homme. Or, dans la nature, il n'y a pas de moralité. C'est ça qu'il faut découvrir. Vous savez ce qu'on appelle la loi de la jungle, par exemple. Bon, ça, ce serait la morale naturelle. Alors, s'il faut imiter ça chez l'homme, il y a un échec a priori. C'est donc les philosophes qui parlent de la morale naturelle en bonne part, en essayant de définir un minimum commun de valeurs morales, de devoirs, d'obligations, de responsabilités au niveau de ce qu'on appellerait une morale naturelle, pense à autre chose. Il ne s'agit pas de la nature prise comme modèle pour l'homme. C'est bien clair ? Est-ce que c'est compris ? Je ne veux pas trop compliquer les choses en vous donnant des références chez les philosophes, mais retenez qu'il y a un problème, comme on dit, c'est bayati, c'est problématique d'employer cette expression-là du point de vue de la tradition biblique, prophétique. Retenez qu'il y a une différence de destination, de destinée, j'ai pas dit destin, c'est tout à fait autre chose, entre l'être de nature qui fonctionne d'après les lois de la nature et l'homme qui est au-delà. On a déjà touché à ce problème. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Et cependant, il y a un tzaddik en conformité avec la manière dont le Créateur gère le monde qu'il a créé à travers les lois de la nature. Mais il y a des lois morales naturelles pour l'homme. Il ne s'agit pas de la morale naturelle, de l'être de nature qui serait à la limite l'animal. Pareil, c'est clair ? Quoique, énormément d'études sont faites dans le temps contemporain. Je vous ai parlé un jour de la polémologie. Vous vous rappelez ce que c'est ? Bon, cette découverte que le fait de l'agressivité, du conflit, est un fait fondamental, que les derniers siècles humanistes ont jeté un tabou là-dessus, comme si ça n'existait pas. On a redécouvert cela. Et vous vous rappelez de cela, Ken ? Et dans ces recherches, on a découvert aussi que, du point de vue de ce que serait une morale naturelle chez les animaux sont supérieurs à ce niveau-là à l'homme. Vous vous rappelez de cela, dans tous les cas. Mais malgré tout, la référence à la nature comme modèle pour la conduite morale humaine, c'est pas du tout ça les Shiva Mitzvot de Bnei Noach, les sept Mitzvot de Bnei Noach. C'est clair jusque-là ? Alors que pour Abraham, vous vous rappelez, il y a deux facteurs qui changent dans le verset. C'est Ithaler Lefanai, marcher en avant. C'est une sorte, je vais vous décrire un profil, une sorte d'éclaireur de la moralité. Comme on appelle ça un défricheur ou un déchiffreur, c'est la même chose. C'est l'homme qui va défricher les étapes non encore réalisé de l'aventure morale. C'est une description bien schématique. Et là, nous avons une catégorisation schématique, mais absolue. Vous avez deux catégories de tzadikim radicalement différentes. Ceux qui sont en accord, tu vas faire bon, ceux qui sont en accord avec la révélation morale déjà faite et à travers ce que serait une nature humaine. Et la nature humaine, c'est pas la nature, hein, c'est clair. Ça, c'est le tzaddik selon Noir. Pour le moment, ça reste obscur intentionnellement parce que je vais vous faire découvrir le problème. Okay. Et ensuite, à l'extrême pointe de l'héroïsme moral de la conscience humaine, marcher en avant, c'est ça les fanaïs, okay. Le tzaddik selon Abraham, et qui est relié au nom du schéma vaya, le tétragramme, comme on dit en français, parce que ça vient du grec, ça veut dire le nom de quatre lettres, tétragramma. Okay. Le schéma vaya qu'on ne prononce pas, ça vous avez déjà rencontré dans les cours, on dit le nom, et nous avons donc une différence très claire dans le texte. Chaque fois qu'on est tzaddik devant Hachem, il s'agit de la perspective d'Abraham. Tzaddik et à Elohim, avec Elohim, il s'agit de la perspective de Noir. Bon, alors, nous allons essayer de progresser et essayer de comprendre comment se pose ce problème de la différence de nature entre ces deux formes de tzaddik. Alors, je vais procéder très brièvement, comme j'ai l'habitude, parce que je crois que c'est indispensable. Comment vous expliquer ça ? Pas seulement moi, mais en général, les Israéliens sont tellement déjà loin de la familiarité, de l'emploi des mots français à ce propos, que je veux d'abord entendre comment ça se signifie chez vous. Alors, qui pourrait proposer une définition de la différence entre ces deux formes de tzaddik ? Tzaddik, c'est tzaddik. Je me rappelle quand j'ai posé la question, par là-bas est venue une réponse, quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est un tzaddik, on avait dû changer de place. Et c'est une réponse juste d'ailleurs. Qui se souvient d'avoir répondu à ça? Les gens qui étaient là-bas la semaine, il y a 15 jours. Vous rappelez pas? Quand je dis tzaddik, juste, qu'est-ce que ça signifie d'abord fondamentalement? Laissez de côté provisoirement Noah et Abraham. Okay? Non, non, tzedaka, j'avais entendu ce mot-là ici. Mais c'était toi d'ailleurs qui étais là. Oui. Mais vous voyez que ce n'est pas des blagues. Alors il ne faut pas me donner ce dahara. Tzaddik se définit par rapport à une norme, à la limite par rapport à une loi. Le comportement est dit un comportement de tzaddik quand ça tombe juste, c'est conforme à une norme. C'est ça, tzaddik. Retenez en français, je crois que c'est l'explication la plus simple, la notion de justesse qui précède celle de justice. La justice qui précède logiquement. La justice étant la justesse morale. Et que ça veut dire la justesse? Littéralement, simplement, ça tombe juste avec la règle. C'est-à-dire quelqu'un qui est en conformité avec la règle, quelle que soit la règle, il s'appelle tzaddik. Son acte est l'acte d'un tzaddik. Hu asa betzedek. Mais betzedek en hébreu, comme je l'emploie dans cette phrase, ça ne veut pas dire avec justice. Betzedek avec, je ne sais plus parler français. Mais vous comprenez en hébreu? Ah ça, betzedek. Bediouk, il a fait ce qu'il fallait faire. Betzedek, mais il y a sûrement un mot. Justesse, mais il y a sûrement un autre mot en français.
Sagesse.
Moi?
La sagesse.
Non, non, rien avec la sagesse. Hein. Avec exactitude. Betzedek. Il y a la notion de justifier. C'est justifier ce qu'il a fait. Betzedek, il a raison. C'est clair? Donc, qui a dit la connaissance, la sagesse? Alors faites attention, la sagesse, on va s'en occuper un autre jour. Ne confondez pas les notions et les catégories. Je sais que c'est flou en français, un saint, un sage, un juste. On se demande pourquoi il y a tellement de mots pour dire la même chose. C'est que ce n'est pas la même chose. Seulement, dans le français moderne, il y a un vague dans les mots spirituels. Vous avez par exemple des livres de traduction de la prière, Ken? Vous avez remarqué à quel point ça fait, je ne sais pas comment dire, vieux jeu, 18e siècle, on se demande, pas du tout, au 18e siècle, chaque mot en français aussi avait son sens exact. Louanger, ce n'est pas la même chose que je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, okay. Mais le français moderne a déjà, je crois que c'est toutes les langues européenne moderne. Je crois que c'est peut-être l'influence du pragmatisme anglo-saxon qui a tout assassiné là-dedans. C'est un peu infantile comme niveau. Et alors, dès qu'on entre dans les problèmes de définition des réalités spirituelles, des idéalia, c'est tout semble être synonyme. On ne sait plus faire les différences. C'est clair ce que je dis là. Par exemple, donnez-moi des synonymes de l'âme. Non, des synonymes en français. L'âme, ou bien l'esprit, ou bien... Non, toi tu as fait des sciences occultes. Ça c'est du côté de chez Brahma. Non, nous c'est Abraham. J'ai pas dit que c'est la même chose. Eh bien, par exemple, l'esprit et l'âme, ça n'a rien à voir. Et pourtant, en français, ça semble être synonyme. Et vous voyez à quel point on s'est distancié de tout cela. Donc, alors voilà le sens étymologique de tzadik. Mi, c'est mitnaheg, c'est osé, betzedek. C'est clair? Au niveau de la morale, la justesse s'appelle la justice. Avec un énorme problème. C'est que dans les sociétés contemporaines, il y a un double sens au mot justice. La justice morale, qu'on va appeler idéale, vous savez comment disent les occidentaux, quelle est la définition de l'idéal? C'est ce qu'on ne peut pas atteindre. Vous voyez la différence de mentalité? C'est clair. C'est un alibi. Ah, c'est un idéal. Donc, je suis tranquille, on n'a pas à me demander de l'atteindre. C'est clair. La justice n'est pas de ce monde. Point à la ligne. Et on va ouvrir le journal pour voir ce qu'il y a dans le monde. C'est clair. Mais puis où de ça? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tout ça, c'est faux. De temps en temps, il y en a une qui est juste. Mais il faut savoir laquelle. C'est clair? Bon. Ça c'est un alibi de la conscience morale, que puisque l'idéal, par définition, ne peut pas s'atteindre, alors on est quitte, pas tour, comme on dit en français. Alors, que disais-je juste avant de penser encore aux Occidentaux? Oui, c'est que quand on dit justice dans les sociétés contemporaines, on pense à la justice des tribunaux, mais ça c'est pas la justice morale, ça c'est la justice, un mot important qu'il va falloir assassiner, légal. Il y a une différence de nature entre la légalité et la moralité. Vous suivez ça? Et ça ne veut pas dire que la légalité est forcément conventionnelle dans le sens négatif du mot conventionnel. La légalité a sa cohérence propre, mais ce n'est pas la moralité. L'idéal, encore une fois, serait que la légalité et la moralité coïncident. Okay. Et vous avez découvert ce problème? C'est un problème très important. Ne pas confondre légal et moral. Être conforme à la légalité, c'est une parmi les vertus morales et les des plus inférieures. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça commence comme ça, ça peut coïncider. Mais ce n'est pas la même chose. Vous avez compris cela? Voilà, c'est le grand conflit que nous avons avec Rome. Rome a substitué la légalité à la moralité. Et elle a réussi. Finalement, quand on parle du droit en Occident, le droit, c'est le droit romain, bien sûr, à l'horizon. Le droit, ça veut dire la justice légale. Et d'ailleurs, c'est un problème qui empoisonne la société israélienne. Ça vous apprendrez beaucoup plus tard. Parce qu'il y a une espèce de projection de la mentalité occidentale dans la société israélienne non traditionnelle, qui s'est coupée de la tradition juive à proprement parler, et qui, avec énormément de bonne foi, énormément de vertu, énormément de courage moral, substitue le droit légal au droit moral. D'où toutes ces affaires à impasse qu'on n'arrive pas à résoudre. Vous avez compris le problème? Mais s'il y a eu un conflit culturel important ces deux derniers millénaires, c'est... Ça avait commencé avec les Grecs, mais c'est surtout avec les Romains, avec Rome, c'est l'égalité, moralité. Vous avez bien suivi ça, okay? C'est clair? Pour tout le monde, pas compris? Non, tu comprends pas ce que je veux dire?
Non, je comprends pas. Vous avez dit Rome, c'est situé l'égalité, la moralité.
Je sais pas, vous avez fait du latin?
Oui.
T'as lu Cicéron, c'est point carré. T'as lu Cicéron. Tu vois, le discours moral romain, c'est un discours légal. Ça veut dire qu'il y a des normes décidées par telle ou telle assemblée, peu importe, de juristes. Okay. C'est la norme de la légalité. Et alors, finalement, ça fait partie du génie de la langue latine, qui est une très belle langue d'ailleurs, difficile mais très belle, d'arriver à masquer l'exigence morale derrière la dignité un peu stoïcienne, mais pas forcément toujours stoïcienne, de la conformité à la loi légale, à la loi décidée par le Parlement, à l'ordonnance municipale. Vous avez vu je vous donner une image. La relation entre un juif traditionnel et la Torah, c'est une relation d'amour. Hein. Vous avez vu, vous, un Romain tomber amoureux de la Constitution? Ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez la relation entre un Français et la Constitution française. Hein. Est-ce qu'on danserait avec un Sefer Torah, Torah perché, Ultimima, et tout? Vous comprenez? Remarquez, quand on étudiera la période de l'émancipation, comment Napoléon a réussi à romaniser les juifs en Europe, ça a commencé par la France, le symbole d'étape de la loi. Hein, c'est un symbole qui fait vibrer d'émotion n'importe quel juif. Okay, c'est un symbole romain, figurez-vous. Même ça, ça s'est substitué. Okay, je vous dis une chose énorme. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ce fétichisme d'étape de la loi comme ça. Ça, c'est un symbole romain. Comment c'est dans la tradition juive l'étape de la loi? Deux cubes. Hein. Tout ça, les juifs ont oublié, parce que c'est clair. Je me rappelle, j'ai depuis ma jeunesse entendu des discours de beaucoup de grands romains de France, trois, je les ai traversés, et, faisant avec énormément de sincérité et de bonne foi des parallèles entre les 10 commandements et la Constitution de 89. Alors, vous voyez un grand rabbin avec les tables de la loi comme ça, mais il a écrit quoi? Il a écrit le droit romain. Ça y est, c'est clair. Vous avez compris le problème. Et je crois même qu'il y en a un qui a passé toute sa vie à chercher, si par hasard il ne pouvait pas trouver chez les Romains, une allusion à « tu aimeras ton prochain comme toi-même », pour pouvoir dire « jusque-là, ça va okay ». Donc, c'est un verset que les rabbins connaissent. Alors, donc, par rapport à la définition de justice, faites attention. Si l'utilisation du mot de justice renvoie par implication à la légalité ou à la moralité. C'est bien clair ? Ça va ? D'autre part, il y a un autre problème avec les termes hébreux de tzedek, tzedaka. On ne va pas toucher ça aujourd'hui, quoiqu'une question avait été posée là-dessus. Il y a un devoir de charité qui n'est que justice, c'est celui-là qui s'appelle tzedaka. Okay. Mais ne confondez pas. Entre charité, c'est quoi en hébreu ? Le mot de charité en hébreu ? Chesed. Okay. Tzedaka, c'est la charité qui est devoir, qui est justice. Ça, c'est tzedaka. Tzedek, c'est la justice. Alors, tzedek en hébreu, c'est la justice morale. Ne confondez pas avec la justice légale. Ça va ? Donc, je referme cette parenthèse. Ok ? Pas tout seul.
Vous avez dit que la différence de tzedek entre la Bible et entre la Noah et Abraham, c'était que Noah était simplement tzaddik, mais que Abraham était
aussi chassid. Oui, bon, ça, on y arrivera. Oui, bon, mais ça déjà, on a touché plus ou moins dans ces définitions. Que la mida d'Abraham, c'est la mida de chesed. Okay. Mais Abraham est appelé tzaddik. Alors, qu'est-ce que c'est un tzaddik comme Noah, un tzaddik comme Abraham? C'est clair jusque-là? Alors, je vais poser la question suivante. Étant donné que notre définition j'admets comme postulat que les trois ou quatre parenthèses qu'on vient d'avoir, vous les éclaircissez par vous-même. Okay. Surtout ce problème de légalité, moralité qui est très important. D'autant plus que les Romains se sont arrangés pour accuser les Juifs de légalisme. Vous connaissez ça, c'est une tarte à la crème, un cliché habituel. Okay. Dans les théologiens chrétiens ont renversé le problème et ont accusé la tradition juive d'être légaliste, alors que c'est la tradition romaine qui est légaliste. Vous comprenez ? Donc, je reviens au problème. Étant donné la définition du tzaddik, conformité à une norme, vont apparaître différentes questions que je vous signale simplement en passant. Et peu importe que le lien du tzaddik avec la loi à laquelle il veut être conforme soit un lien spontané, heureux, facile, un tzaddik est heureux d'être tzaddik. Ou au contraire, un lien difficile, il obéit. Vous voyez le geste, j'ai obéi à la loi. C'est pénible. Hein. Au niveau de la définition du tzaddik, c'est le résultat qui compte, la conformité. Donc déjà dans cette définition de conformité à la loi, vous allez avoir plusieurs niveaux. Le tzaddik qui est déjà presque par sa propre nature comme la loi, est beaucoup plus haut que celui qui doit faire des exercices pour arriver à se conformer à la loi. En fin de compte, il arrive à être familier, et puis c'est comme si lui veut ce que la loi veut. Mais premièrement, il obéit. Quand on dit qu'on obéit, ça veut dire qu'on ne veut pas ce que la loi veut, mais on a des raisons de faire. Okay. Tout ça, c'est tzaddique, mais il va y avoir énormément de niveaux. C'est clair jusque-là? Et d'après vous, en passant, celui qui doit faire effort pour obéir à la loi, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à celui qui doit, qui peut se... Il est
supérieur.
Vous avez déjà appris ça?
Non.
Ça vous vient comme ça? L'hérédité. Vous avez un grand-père talmudiste.
C'est la façon dont vous avez posé la question.
Ah, il faut que je me méfie. Alors. Vous êtes déjà habitué. Alors bon, mais ça va. Mais ça, justement, je voulais poser la question. Et pourquoi il est supérieur?
Il travaille sur les mérites.
Mais celui qui n'a même pas travaillé, qui est déjà comme ça, est-ce qu'il n'a pas un mérite plus grand?
Ça lui a un
mérite. Mais est-ce que, d'autre part, je vous fais l'analyse inverse, celui qui est déjà dans sa conscience conforme à la loi, est-ce qu'il n'a pas un mérite supérieur à celui qui doit? Mais peut-être qu'il l'a fait. Et que c'est une minute. Vous avez vu un coureur cycliste qui fait une performance. Okay. Alors vous allez dire, il ne fait pas d'effort, et tous les exercices qu'il a fait avant, il a acquis.
C'est la différence que vous avez
expliquée. Attends, ne mélangez pas les choses. Je finis avec ça. On est sur un point bien précis. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, alors, la solution, vous l'avez. Vous avez appris un autre klal, mais à propos d'un autre sujet. Celui qui, spontanément, veut lui-même ce que la loi veut, et on est au bord du chassid, c'est le tzaddik le plus haut, il a un mérite supérieur au niveau de l'être. Alors que celui qui doit faire effort pour faire, il a un niveau supérieur au niveau des actes. Vous avez compris la différence? Donc, ne dites pas que l'un, stam, que l'un est supérieur à l'autre. Il y a toute une problématique. Il y a un chapitre entier de Maïmonide, vous le ferez d'ailleurs cette année, qui pose la question comme ça. Qui est supérieur? Celui qui ne veut pas ce que la loi veut, mais y obéit. Et donc, il faut des efforts. Okay. Ou celui qui veut ce que la loi veut? Est-ce que vous avez compris cette distinction? C'est très différent comme attitude morale. C'est clair? Alors, il y a un point de vue où le chassid est supérieur au tzaddik et un point de vue où le tzaddik est supérieur au chassid. Si déjà j'appelle ça chassid, hein. Quoique chassid c'est encore au-delà de tzaddik, on est au bord. Vous avez suivi? Tout le monde a bien compris cela? Alors, il y a une des dernières Mishnah du Pirkei Avot, que vous allez bientôt commencer à étudier dès que vous serez un peu plus débrouillé, d'autant plus que c'est en araméen. Alors, je vais vous dire. C'est très connu, je vous traduirai en hébreu. Les foum, Sahara, Abraham. Alors, prenez ça déjà. Ça, c'est en araméen. Les foum, Sahara, Abraham. C'est en trois mots tout notre problème. Je vous mets en hébreu. Les filles. Les filles, alors les diplômés en hébreu, selon Sahar Tsahar, selon l'effort, Tsahar, okay. Tsahar en araméen. D'ailleurs, je vous donnais une règle déjà. Je crois que vous avez un Aleph à la fin d'un mot en araméen, c'est le Ré avant le mot en hébreu. Tsahar correspond à Hatsahar en hébreu. Okay. Agra, la récompense. En hébreu, Agra, c'est mis avec un Hé à la fin. Bon. Vous avez trois mots retenus. Les Foum, Tsahara, Agra. Ça se dit en araméen parce que c'est passé dans l'hébreu comme idiome, c'est que ça qu'on dit? Une unité de lecture, idiome. Okay. Ah, les Foum, Tsahara, Agra. Le salaire des actes dépend de la difficulté de l'effort. Mais le mérite d'être est au-delà. C'est clair? En fin de compte, vous avez le processus suivant. Au début, c'est très difficile. Et puis, en fin de compte, à force de transformer l'acte en être, non seulement c'est plus difficile, mais on ne perçoit plus la difficulté, on se cherche des difficultés supplémentaires pour avoir des mérites. Évitez ça. C'est clair ? Ça, c'est déjà un raté psychologique. De croire que c'est nécessaire de souffrir pour être moral. Hein ? Si déjà sur un point, on a cette chance qu'on ne souffre plus, on ne se cherche pas des souffrances supplémentaires. Ça y est, c'est clair ? Et nous avons dans la prière une formule qui fait allusion à cela. Vetargilenu bemitzvotech. Rends-nous familiers à tes mitzvot. C'est clair ? A priori, la Torah est au-dessus de la nature humaine, de l'homme être de nature. Ne croyez pas que la Torah se donne en héritage, il faut qu'elle se conquiert chaque fois. Il y a un cas particulier d'Israël qui est, je suis déjà en plein dans notre sujet, à partir d'Abraham, qui est Bekoah, en potentiel, lié à cette Torah. De la même manière que la Torah, c'est la Torah d'Israël, Israël, c'est l'Israël de la Torah. Okay ? Mais il faut quand même réaliser ce potentiel en acte. Il faut l'acquérir. Si on a un don et qu'on ne le travaille pas, il se perd. Mais il n'y a que celui qui a un don qui pourra arriver à être musicien, je ne sais pas quoi. C'est clair ? Vous avez compris le problème ? Et donc, pourquoi je vous ai parlé de ça ? Oui, la formule de la tfila, Vetargilenu bemitzvoter. Et là, il y a un piège. C'est le piège de l'habitude qui devient routine. Mais c'est là qu'on va distinguer le vrai tzadik du faux tzadik. Vous avez compris ? Bon. Alors, je reviens à ma définition de départ. C'est que le premier sens du mot de tzadik, c'est conformité à une règle. Et il y a des attitudes différentes, mais tout ça, c'est tzadik quand même. On va avoir une évaluation différente comme jugement de valeur, un tzaddik supérieur à l'autre. Mais j'espère qu'on a déjà introduit cette hiérarchie dans la notion même de tzaddik. Tous les tzaddikis ne sont pas au même niveau. Ça va ? Déjà, dans la relation. Alors là apparaît notre problème. C'est, justement, j'y ai fait allusion tout à l'heure, en parlant immédiatement d'Israël. En général, on rencontre ce problème dans le sens d'une difficulté morale de l'ordre de l'injustice. Parce que finalement, pour qu'un tzaddik soit tzaddik, il faut qu'il ait la bonne volonté, mais il faut aussi qu'il soit en mesure d'être relié à la vraie loi. S'il n'est pas relié à la vraie loi, il n'a pas de chance d'être tzaddik. Vous avez découvert le problème ? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une énorme injustice dans cette distribution du problème à Israël, qui lui est donné à la Torah ? Alors, il a des chances d'être tzaddik. Et les autres hommes qui ne sont pas donnés à la Torah, où est leur chance d'être tzaddik ? Vous suivez ? Après, vous étudierez comment est le statut des Bnei Noir. Les Bnei Noir, ce n'est pas Stam, les autres hommes. C'est parmi les autres hommes ceux qui ont accepté l'alliance de Noir. Ce n'est pas la même chose. Il y a Israël, les Bnei Noir et les autres. Et c'est clair ? On aura d'ailleurs, quand vous aurez fini ces exercices avec Rivon sur ce problème, on aura un certain nombre de sondages et vous aurez des surprises. Il y a des règles quand même pour être Ben Noir, c'est pas n'importe qui peut être Ben Noir. C'est clair ? Alors je reviens à notre problème. On a découvert un problème très difficile. Est-ce qu'il n'y aurait pas, a priori, une difficulté énorme de trouver une définition du tzaddik qui soit universelle, qui aille pour tous ? Qu'est-ce que ça veut dire universelle ? Qui va pour tous ? Est-ce qu'il n'y a pas ici une clause qui privilégie Israël ? Avec un appendice et qui privilégie à un autre niveau les Bnei Noir. C'est clair ? Tout le monde a bien compris la question ? Alors comment on va résoudre ce problème ? Réfléchissez par vous-même. Comment vous entrevoyez une solution à ce problème ? Bon, je suppose que vous avez déjà rencontré une fois cette question.
La loi pour Israël n'est pas la même que la loi pour Israël ?
Bon, ça c'est les Bnei Noir. Et les Bnei Noir dans ce problème, ils sont du côté d'Israël. Vous avez des hommes qu'on va appeler les Bnei Noir, qui, pour quelque raison que ce soit, finalement, sont sensibles à l'obligation d'un certain nombre de mitzvot bien particulières qu'on va vous définir en travaux pratiques. Hein. Alors, d'une certaine manière, ils sont privilégiés. Vous comprenez ? Les autres hommes, qui n'auraient pas l'adresse de la Torah, qu'elle soit au niveau des Bnei Noir ou au niveau d'Israël, a priori sans m'être disqualifié. Pour être tzaddik, il faut au minimum, d'après les analyses que nous avons vues, je dis au minimum parce qu'il y a d'autres facteurs, premièrement la bonne volonté, même si cette bonne volonté, c'est de la mauvaise volonté. Hein, c'est notre problème de tout à l'heure, c'est clair. Tzaddik verarlo, c'est une expression qu'on étudiera d'autre part. Une des questions graves, c'est pourquoi il peut exister dans le monde un tzaddik et il a du malheur. Tzaddik verarlo. Comprenez ça? Dans la chassidoute, on a posé la question tout à fait autre chose, autrement, en parlant tout à fait autre chose, apparemment, mais c'est les mêmes mots. Tzaddik verarlo liot tzaddik. C'est un tzaddik, mais c'est mauvais pour lui d'être tzaddik. Il ressent ça comme un malheur. Vous avez compris, c'est-à-dire la mauvaise conscience, okay, c'est clair? Parle plus fort. Pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'on rencontre dans l'existence un problème assez mystérieux. Et le fait que, un problème difficile, le fait que la morale et la nature ne vont pas dans le même sens. Okay, la morale, c'est la vertu. La nature, c'est le sort de chaque homme dans le monde. Okay, alors, ça ne semble pas aller ensemble. Vous avez des tzadikim et ils sont malheureux, des rechaim et ils sont heureux. Et vous avez des tzadikim qui sont heureux, des rechaim qui sont malheureux. C'est, il ne semble pas y avoir de règles. Okay. D'après la Gomara, on étudiera ce texte un jour, c'est une des questions que Moïse avait imposées à Dieu avant d'accepter la Torah, avant de recevoir la Torah. Lorsque la Gomara dit, lorsque Moïse est monté au Sinaï, il avait un certain nombre de questions préalables. Une de ces questions, c'est « Madoua tzadik vetovlo, tzadik verarlo, rachar vetovlo, rachar verarlo. » Tant que la Torah n'est pas donnée, bon, on n'a pas de règles pour définir ce que c'est qu'un tzadik, mais une fois que la Torah est donnée, et même comme condition préalable pour accepter la Torah, il faut résoudre ce mystère, parce que même après que la Torah soit donnée, on va voir cette chose inouïe. Des tzadikim, et ils sont malheureux, Job, vous vous rappelez? Donc, des tzadikim, et ils sont malheureux, et des tzadikim, et ils sont heureux. Alors, où est la règle? Il ne suffit pas d'être tzadik pour être ou malheureux ou heureux, puisqu'il y a comme ça, il y a comme ça. Des rechaim, et ils sont malheureux, et des tzadikim, qui sont heureux. Vous avez compris le... Et des rechaim, qui sont... Alors, l'expression ici, suis ma pensée d'abord. L'expression ici, tzadik verarlo, le pshat, c'est un tzadik, il a du malheur. C'est clair? Bon. Alors là, j'ai utilisé cette expression à la manière des chassidim. C'est le Rav Nachman de Breslav qui enseignait comme ça, qui, vous entendrez peut-être Breslav, mais c'est Breslav. Et ça fait rien, on peut dire aussi Breslav, mais c'est Breslav. Et qui explique ça comme ça? Tzadik verarlo, un tzadik. Et ça lui fait du mal d'être sadique. Il est malheureux d'être sadique. Vous vous rappelez? Ou ça s'accroche d'autres analyses? C'est clair? Bon. Qu'est-ce que vous demandez toi-même?
Je comprends pas comment être malheureux d'être
sadique. Ah ben voilà. Ça c'est la méditation transcendantale. Parce que tu connais pas la vie. C'est dans l'existence. Tu rencontreras cette catégorie d'individus. Les individus. Donc tout le tempérament va dans un autre sens que l'exigence morale. Ils ont un tempérament comme ça. Et cependant, ils ont des raisons de savoir que, même des raisons subjectives qui ne sont même pas expliquées même, que la loi morale c'est la vérité, et que pour être un homme authentique il faut se conformer à la loi morale, mais ça leur fait du mal. C'est des tzadikim authentiques. Et non seulement ça, au niveau des actes, ils ont un coffre-fort de mérite à toucher là-haut quand ils arrivent là-bas. C'est clair? Et c'est que tu n'as pas connu dans la vie tout court énormément de gens qui sont comme ça. C'est clair? Ta question m'étonne. Hein, dans quel monde tu vis?
Non, je croyais que ça dit que c'était jamais être malheureux en soi.
C'est ça. Alors je vois que toutes ces analyses sont importantes. J'avais pas fini de te dire. Haham, ça veut pas dire tzadik. Ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un flou de définition. Tu penses à ce profil idéal de quelqu'un qui est heureux d'être juste. Cette catégorie existe grâce à Dieu.
Okay.
Non, on peut être sadique et malheureux d'être sadique.
Mais si on a choisi d'être sadique.
Pas? Oui, mais le tempérament, il existe. C'est-à-dire que quelqu'un a, avec sa tête, son esprit, son âme, tout ce que vous voudrez, toutes les raisons de savoir qu'il faut être sadique. Un point, sans chercher d'explication. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais il a un tempérament qui le pousse de l'autre côté. Imaginez une voiture avec deux moteurs, mais un par là, un par là. C'est ça l'homme. Il y a une belle formule de la Gemara, Oilimi Yotsri, Oilimi Yitsri. Ça veut dire, je ne traduis pas. T'as compris? Ça existe, ça. Mais vous m'étonnez, enfin, dans quel monde vous vivez? Vous avez vécu qu'avec des saints?
Je ne comprends pas non plus qu'on puisse séparer le comportement, l'être de nature, et s'il a compris la loi, il va pouvoir l'intégrer.
Oui, mais peut-être qu'il lui faut du temps, il est encore au stade où il n'intègre pas encore, il est en conflit. En méta, bien sûr, puisque en fin de compte, il réussit cette performance, que quel que soit son tempérament, il fait ce qu'il faut. C'est dedans que ça ne va pas, qu'il y a conflit. Okay? Mais il fait ce qu'il faut, alors il est tzadique. Il y a d'autres niveaux. Hein? Attention, tzadique, racide, kadosh, yachar, on verra après. Okay? Mais pour le moment, on est tout à fait en bas de l'échelle, qui est elle-même une échelle énorme, les tzadikim. Alors, vous m'obligez à revenir là-dessus, mais je crois que ça vaut la peine. Caractériser cela, ça ne veut pas dire qu'on va le disqualifier, au contraire. On va voir un athlète en train de faire des exercices pour arriver à faire la performance qui consiste à faire son, je ne sais pas quoi, au bar parallèle, sans effort. Mais pour arriver là, il faut de l'effort. Vous suivez? Je vous donne un exemple. Un de mes maîtres, j'étais encore tout jeune, et qui nous avait donné une image extraordinaire. Il me dit, voilà, vous voyez, en photographie horizontale, deux juifs qui fument le samedi, le Shabbat. Bon. Un, à son nom, va au monde à venir, et l'autre, il va à l'enfer. Pourquoi? Il dit parce que, un, il fume déjà le Shabbat. Avant, il ne fumait pas. Celui-là, il va en enfer. Il se dirige vers l'enfer. L'autre, il fume encore le Shabbat. Ça va lui passer. Celui-là, il va... Oh la maman. Où est la différence? Alors, au niveau des actes, ils sont apparemment au même niveau. Racha. Mais au niveau de l'être, ils sont très différents. Voilà un autre exemple. C'est clair? Ça va jusque... Vous voyez qu'il faut se méfier quand on juge quelqu'un. Dans ce qu'il a fait, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait, mais on ne sait pas quelle est l'évaluation. Il faut un beddin, un tribunal seul peut dire tzadik ou racha. Ça va jusque-là? C'est bien clair. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme on dit banalement, mais ce n'est pas si banal que ça, il ne faut pas juger d'après les apparences. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Celui-là est en cours d'effort pour eux, l'autre est au contraire en cours de dégringolade. Alors ils ne peuvent pas avoir le même statut. Il y a un cas encore plus difficile que je vais demander d'y réfléchir. Un rachar, et il est malheureux d'être rachar. C'est encore plus difficile. Eh bien, c'est très répandu. Ne croyez pas que les rachaïm soient heureux d'être rachaïm. Après tout, c'est des hommes. Ils savent très bien que ça ne marche pas. Seulement, malheureusement, pour eux, ils ne peuvent pas encore faire autrement. Et alors, le conflit intérieur, finalement, le psychiatre.
Qu'est-ce que c'est exactement un rachar?
Rachar, le contraire d'un tzadik. C'est très bien ta question, parce qu'il n'y a pas de mot français pour traduire. Si on dit un méchant, c'est du langage homilétique. Ça, c'est dans les sermons, on dit comme ça. Et je vous dirais pourquoi en français, il n'y a pas, de mot pour traduire rachard, vraiment. Peut-être dans l'ancien français, mais j'ai jamais eu le temps de chercher ça. Peut-être si vous le cherchez, vous m'envoyez un télégramme. C'est que la mentalité du français est très imprégnée de culture chrétienne. Et comme dans la culture chrétienne, le juste ne se définit pas par rapport à une loi, alors on ne peut pas trouver de terme opposé au non-juste par rapport à la loi, puisque le juste ne se définit pas par rapport à la loi. Vous y êtes? On trouvera les impies. Impie, c'est pas rachat. Impie, ça veut dire qu'il n'est pas pieux. Pas plus. Pas moins, mais pas plus. Impie. Bon. Et ça, un autre, pourquoi? Parce que toute cette mentalité-là est que le salut ne passe pas par la conformité à une loi. Donc le tzaddik ne se définit pas comme ça, comme il se définit en hébreu, conforme à la loi. C'est clair? Vous avez compris le problème? C'est pour ça qu'il n'y a pas de mot en français qui traduise vraiment méchant, rachat. Tu peux te servir de méchant. Rachat, c'est celui qui viole la loi en sachant ce qu'il fait.
Il n'y a pas que deux catégories, ce n'est pas exclusif. Entre les deux, il y a les hommes.
Eh bien oui, entre les deux, il y a tous ceux qui sont dans la catégorie du tzaddik niveau, dans la catégorie du rachat niveau. Mais la séparation, c'est la conformité à la loi. Pardon? Hein? En général, les gens visent cela, être benoni, c'est-à-dire au milieu. Hein? C'est-à-dire, si ils ont l'occasion de faire une mitzvah, ils font une mitzvah, pourquoi pas? Hein? Mais s'ils ont l'occasion de faire une avera, ils font une avera, pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle les gens moyens, comme ça. Hein? Méfiez-vous de ces gens-là. Parce qu'ils sont capricieux. On ne sait pas s'ils sont tzadikim ou rechaïm. Mais je veux dire, ne croyez pas que les rechaïm sont perdus. On va voir toute une série de clauses pas de rattrapage à proprement parler, de rattrapage si vous voulez. Ils font partie du problème moral. Ils ont des problèmes avec la loi. Okay ? Il y a une catégorie qui est en tout cas très positive. C'est ceux qui sont chahim, ils en sont malheureux. Ceux-là ont beaucoup plus de mérite que beaucoup d'autres. Ça va jusque-là. Je vais vous dire comment les chassidim ont défini, ça vient de la Kabbalah, mais c'est surtout chez les chassidim qu'on a utilisé ça. Une assemblée, comment ça se dit ? Un autre mot ? Un autre mot ? Non ? Un autre mot ? Quand on dit une société, encore un mot. Tzibour, voilà. Un mot de Tzibour, comment il est écrit ? Tzibour. Alors il dit ça comme ça. Tzadikim, Benonim, Urcharim. Ce va être d'abord. Dans une assemblée, s'il n'y a pas de Urcharim, ce n'est pas une assemblée. Non, je ne plaisante pas. Ça veut dire quand les trois sont là, ça fait un Tzibour. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient reliés ensemble. D'accord ? Benoni. 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 Vous voyez le mot Ben. Ben signifie avec un U. Ben avec un U. Ça donne l'adjectif Benoni, moyen. Entre les deux. En grammaire, ça veut dire le temps présent. Le Benoni. Le connaissez-vous ? D'ailleurs, je vous relirai les deux sens. Qu'est-ce que c'est un Benoni dans le sens moral, moyen ? C'est celui qui se laisse aller à la vie de tous les jours. Il est toujours présent. S'il vient, il vient. Si c'est le mitzvah, c'est le mitzvah. Ah, voilà, ça va ? Les plus grands des tzadikim avaient l'habitude de se définir comme Benoni. Pourquoi ? Quelle vertu joue là ? La modestie. Mais ici, encore la modestie, c'est un mot un peu péjoratif. L'authenticité. Ça veut dire un tzadik qui se prend pour un tzadik, c'est qu'il n'est plus tzadik. Alors il est béni. Ça va. Donc voilà la faute d'orgueil. Alors les Israéliens ont entendu le bâle, qu'est-ce qui reste ? Tzabar, qu'est-ce que c'est un tzabar ? Les tzabarim. Sabra. Sabra, c'est l'adjectif. C'est. Ça y est. Donc, Tsaïf, Bavi, Verana. Ça vous a dit tout ça. Donc. Alors, ça y est, avec les Rechaïm, là, on a fini. Bon, il ne vous reste plus de questions. Je reprends ma question de base, le problème. Pour être tzadik, conformité à la loi, il faut premièrement une clause de bonne volonté, même si ça fait du mal. Clair ? Deuxièmement, il faut la connaissance de la loi. C'est là que ton haram va arriver. Okay ? Vous y êtes ? Si ces deux clauses ne sont pas remplies, il y a une injustice fondamentale. Alors on va admettre comme postulat qu'un être humain normalement constitué, on n'écrit pas sur les livres comme ça, on lève les livres et dit, on n'écrit pas sur les livres. Du respect pour les livres. Et imagine par exemple qu'on te mette sur une chaise, on t'enlève une feuille comme ça. Alors, on va admettre comme postulat que la bonne volonté est partagée universellement, qu'un homme normalement constitué est de bonne volonté morale. On va admettre comme postulat qu'il faut être fou pour pouvoir vouloir être rachat. On va admettre ça comme ça. Que vraiment, la bonne volonté, si on est en bonne santé, c'est universel. On va l'admettre, c'est clair ? C'est pas évident, mais on va l'admettre comme postulat. Parce que ça fait moins problème. On l'étudiera un autre jour. Pour pas trop mélanger, il reste la deuxième clause, l'accès à la loi. Je peux être de bonne volonté et me conduire comme un rachat si je me trompe de loi. Si je n'ai pas les critères de la loi morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est clair ? Énormément de consciences ont renoncé à la moralité alors qu'ils avaient la bonne volonté. Mais ils se sont trouvés impuissants à distinguer le bien du mal, ils ont renoncé. C'est clair ? Est-ce que c'est bien compris ? On étudiera ça dans une Gemara une fois. En général, ça se passe à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, en général, les jeunes gens, les jeunes filles, c'est la même chose pour ce problème. Pas pour d'autres, mais pour celui-là. Ne demandent pas mieux que d'être des héros de la moralité, le sauveur du monde. C'est clair ? Et puis ils grandissent. devient adulte et il renonce. Pourquoi ? Un des facteurs, c'est celui-là. Il y a d'autres facteurs, mais un des facteurs, c'est celui-là. La bonne volonté qui ne s'appuie pas sur une connaissance claire où est le bien, où est le bien, où est le mal, finit par s'effondrer. C'est clair jusque-là ? Tout le monde a bien compris ? Bon. Alors revenons à notre problème. Mais qui a accès à cette connaissance de la morale absolue, de la morale révélée, tout ce que vous voulez, que Israël, alors quel est le cas des autres ? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y aurait pas de tzadikim chez le goyim ? Mettons entre parenthèses les bnei noirs, hein, ça va du côté d'Israël. Ça va jusque-là ? Il ne pourrait pas y avoir de tzadikim chez le goyim. Bon, j'ai accusé un peu la difficulté pour que vous la compreniez bien. Et pourtant, on dit que noir est tzadik. Hein. C'est ça que tu voulais dire ? Vous avez compris l'impasse ? Alors, qui va dénouer le problème ? C'est très simple. Non, un tzaddik authentique, c'est quelqu'un qui veut être tzaddik. Celui qui s'approche, qui s'amène et qui dit je suis tzaddik, c'est qu'il est orgueilleux.
Et un tzaddik. Il n'y a pas de tzaddik.
Hein? Plus fort, il n'y a pas de. Oui, mais justement, la qualité morale du tzaddik est telle qu'il n'aura jamais cette chutzpah de vous dire je suis tzaddik.
Mais c'est.
Non, il sait qu'il cherche à être tzaddik, parce qu'on est tzaddik à des niveaux très... Je vais vous donner un exemple. Parmi les 613 commandements de la Torah, il y en a un, bon, c'est une controverse chez les rabbins, on étudiera ça plus tard, il y en a un qui est de faire tshuva, de se repentir si on a fait une faute. Et c'est un des commandements de la Torah. Ça veut dire que la Torah elle-même prévoit que tout le monde aura à faire des fautes, puisqu'elle donne comme loi la tshuva. Vous y êtes ? Bon, Maïmonide est contre cette explication-là, ça c'est celle de Nahmanide, mais on verra pourquoi Maïmonide est contre.